Il était une fois un pauvre paysan et sa femme qui vivaient à Gossat, dans la province de Bin Din. Peu après la naissance de son fils, le père mourut. Lia, tel était son nom, grandit plus vite que les autres enfants. À 7 ans, il triomphait dans tous les combats et inspirait à tous une admiration doublée de respect, tant et si bien que les enfants lui donnèrent le titre de roi Lia. Une voisine en avertit sa mère. « Malheur à moi !» s'écria cette dernière, « pourvu qu'il ne devienne pas rebelle !» On lui conseilla de le confier au lettré du village qui l'instruirait. Mais le maître ne parvint pas à dompter Lia et finit par le ramener à sa mère. Lia, tout heureux, devint à nouveau le chef des enfants. Un jour, il choisit les plus forts de ses compagnons et les emmena dans une montagne proche où ils détroussèrent des gens qui revenaient du marché. Cette fois, la mère de Lia le rossa et le supplia de changer. Lia n'était pas méchant et il aimait sa mère. Il essaya, mais en vain, de s'amender. Sa pauvre mère le conduisit alors dans un village lointain où un riche propriétaire le prit comme gardien de buffles. Chaque jour, avec d'autres gars, il conduisait les bêtes dans les montagnes. Très vite, tous les gardiens reconnurent Lia comme leur chef. Un jour, Lia décréta: Préparons un festin et réjouissons-nous. Ses compagnons hésitaient à abattre une de leurs bêtes. Tuez un de mes buffles, j'en serai seul responsable, leur dit-il. Ainsi fut fait, et tous de faire ripaille. Vous n'aurez qu'à dire que l'animal a été emporté par un tigre. La ruse réussit, car on avait justement parlé de tigre dans le village. Mais comme les jeunes renouvelèrent leur exploit, les propriétaires finirent par découvrir la vérité. Craignant d'être livrés aux autorités communales, Lia s'enfuit. Désormais, Lia, seul au monde, vécut de larcin. Un jour où, affamé, il volait un panier à un passant, ce dernier éclata en sanglots. J'ai été dépouillé de tout ce que je possédais par le chef de canton, et vous me prenez les quelques sapèques qui me restent. Bien qu'il eût grand faim, Lia rendit au pauvre homme son panier et s'étant informé du nom du chef de canton, alla trouver ce dernier et l'assomma. Sans logis, il erra dans toute la région. Un jour, il parvint dans une zone déserte appelée Mé, où il fut lui-même attaqué par une bande de voleurs. Déracinant un arbre, il les réduisit à l'impuissance. Ceux-ci, lui ayant demandé de se joindre à eux, Lia accepta. À Bongson, la bande pilla un magasin. Mais comme les chefs s'appropriaient la meilleure part du butin, Lia protesta. Il s'ensuivit un combat dont Lia naturellement sortit vainqueur. Dès lors, tous le considérèrent comme leur chef. À partir de ce jour, le pillage prit une autre forme. Sur les ordres de Lia, il fut interdit de s'attaquer aux pauvres gens. Seuls les riches furent détroussés. Chaque fois, Lia obligeait ses compagnons à donner la moitié de leur butin aux malheureux. Lia intervenait ainsi pour remédier à certaines injustices. Son nom sema dès lors l'effroi parmi les riches et fut béni par les pauvres gens. Les mandarins envoyèrent bien des soldats contre Lia et ses compagnons, mais chaque fois ceux-ci furent mis en déroute. À quelque temps de là, le roi organisa un concours de pancrace. Lia brûlait du désir d'y participer, et malgré les conseils de prudence de ses compagnons, il s'y présenta. Le président, très concussionnaire, n'acceptait les demandes qu'accompagnées d'une forte somme d'argent. Lia présentait la sienne sans monnaie. Qui es-tu pour ignorer ainsi les règles du concours? S'écria le président. Soldat, jetez-le dehors. Lya, blême de rage, se contint. Mais la nuit, il revint avec ses compagnons. Ils s'infiltrèrent dans la citadelle, tuèrent le président et emmenèrent sa concubine. Elle était belle. Lya l'épousa. Les mandarins ne purent cacher l'affaire au roi et lui demandèrent son appui. De leur côté, Lya et les siens se fortifièrent et mirent en déroute l'armée royale. Les mandarins décidèrent alors d'employer la ruse. Ils envoyèrent des soldats déguisés en marchant auprès de la femme de Lya. Ces derniers achetèrent les gardes et purent approcher la belle. Ayant déployé des étoffes de soie, ils cachèrent dans un pli d'étoffe la bague du président défunt. Elle comprit et renvoya ses servantes. Si elle acceptait de livrer Lya, le mandarin lui promettait une belle récompense. Elle y consentit et fixa un jour pour agir. Sous prétexte d'honorer l'anniversaire de la mort de sa mère, elle offrit à Lya et ses compagnons un splendide festin. Belle, lançant à tous des regards langoureux, elle leur versait de l'alcool auquel elle avait ajouté des stupéfiants. Le repas, à peine terminé, que tous étaient inconscients. La femme attacha avec d'énormes cordes les compagnons de Lya et le ligota, lui, sur une lourde planche. Aussitôt, les troupes royales attaquèrent. Privés de leur chef, les soldats de Lya s'enfuirent. Lya, dégrisée peu à peu, se redressa, vit le danger et, rassemblant toutes ses forces, brisa les liens qui enserraient ses bras et ses jambes, mais ne put se débarrasser de la planche. Alors il fonça vers la forêt et ses ennemis, lancés à sa poursuite, ne purent le rejoindre. Épuisée, Lya se laissa tomber au pied d'un buisson. La nuit venait. Un vieillard portant un fagot se dirigea vers lui, le libéra et lui donna à manger. « Je suis Lya, l'invincible, » dit-il. « Vous me voyez dans cet état par la trahison d'une femme. Je ne peux vivre après ce déshonneur. Vous m'avez libéré, vous vous êtes privé de votre repas pour me donner à manger. Comment vous remercier? Tenez, prenez ça et portez-le au mandarin qui vous récompensera. » Et, devant le vieillard stupéfait, il se trancha la tête et la lui offrit. Lya, trop fière, n'avait pas compris que le vieillard avait agi ainsi parce qu'il admirait. Le vieux pleura longuement, puis emporta le corps de Lya, qu'il ensevelit dans un endroit connu de lui seul. Un cadao chante encore aujourd'hui. Chaque soir sur le mai plane une hirondelle. Elle plaint Lya, encerclée dans la citadelle.